Bonsoir. Il faut sauver la Seine-Saint-Denis, c'est le message qu'a voulu faire passer Édouard Philippe aujourd'hui à Bobigny. Une batterie de 23 mesures a été dévoilée par le Premier ministre. Les élus locaux ont réservé un accueil mitigé au plan du gouvernement. Le groupe État islamique perd sa tête mais la remplace aussitôt. Moins d'une semaine après l'annonce de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, l'organisation terroriste lui a désigné un successeur cet après-midi. Du tennis, le Masters 1000 de Paris-Bercy, Tsonga s'est qualifié pour les quarts et mon fils tente actuellement d'en faire autant. Mais le Français a perdu le premier set face au Moldave, Albot.
France Inter.
Élus et syndicats réagissent ce soir aux annonces du gouvernement concernant la Seine-Saint-Denis. Édouard Philippe et plusieurs de ses ministres étaient à Bobigny ce jeudi pour annoncer 23 mesures afin de relancer le département francilien. Parmi les dispositifs retenus par le gouvernement figure une prime de 10 000 euros pour fidéliser les fonctionnaires en Seine-Saint-Denis, le recrutement de 150 policiers supplémentaires ou encore le renforcement des contrôles des logements insalubres. Les syndicats de fonctionnaires, notamment CFDT, FO et UNSA, saluent ces mesures mais en se disant circonspects sur leur application. Quant au maire du 93, Agera Mohamed, ils sont pour le moins partagés.
Sylvine Thomassin, maire socialiste de Bondy, sort dépitée de la conférence de presse.
À vrai dire, je suis un peu douchée. Certes, ils ont pris en compte la Seine-Saint-Denis, et c'est quelque chose d'important. Tous les gouvernements précédents ne l'ont pas forcément fait à la bonne hauteur. So what ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Les 150 policiers supplémentaires annoncés dans le département ne suffiront pas, selon elle.
Ça va faire à la louche, deux policiers de plus par ville pour un territoire de 1,7 million habitants, où on sait que le trafic de drogue gangrène, ça ne veut rien dire. Donc je suis vraiment interloquée. Je me suis dit, ils se sont trompés dans la communication, il manque un zéro.
Autre son de cloche avec le maire du Bourget, l'UDI, Yannick Hop.
Ah non, moi je suis plutôt très content. Toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, si vous voulez. Mais là, quand même, force est de constater que le verre est quand même à moitié plein.
Oui, le verre est à moitié plein, mais pas sûr qu'il y ait à boire pour tout le monde, répond Azedine Taïbi. Le maire de Stein prend par exemple les 20 millions d'euros annoncés pour permettre notamment aux communes de dédoubler enfin toutes les classes de CP et de CE1.
Je vous rappelle que 20 millions d'euros, c'est quasiment le prix d'un groupe scolaire de 25-26 classes. Donc comment il va répartir ces 20 millions d'euros dans les 40 communes de la Seine-Saint-Denis ? Je serais tenté de dire que son discours est complètement hors jeu.
En découvrant ce plan, l'élu communiste ne regrette pas du tout, dit-il, la démarche entreprise avec quatre autres maires du 93, c'était début septembre. Ils ont déposé un recours contre l'État pour rupture d'égalité, une première en France.
Et en marge du discours d'Édouard Philippe, une trentaine de militants de la CGT se sont rassemblés devant la préfecture de Bobigny pour dénoncer la casse des services publics. Ils ont ensuite été évacués par les forces de l'ordre et le secrétaire général de la CGT 93 a été placé en garde à vue. La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi confirmée cet après-midi par le groupe État islamique. L'organisation terroriste confirme aussi la mort de son porte-parole lors de l'opération militaire américaine du week-end dernier dans le nord de la Syrie. L'État islamique appelle à des représailles après la mort de son leader en menaçant directement les États-Unis. Et dans l'enregistrement audio de 7 minutes, le groupe État islamique désigne le successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi, Nathanaël Charbonnier.
Il s'appelle Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, mais l'important n'est pas là. Il pourrait porter un tout autre nom. L'enjeu pour l'État islamique, c'est surtout de montrer que le roi est mort, vive le roi. En l'occurrence, le calife est mort, vive le calife. D'ailleurs, il est intéressant de noter que tout comme dans le nom de l'ancien calife al-Baghdadi, tué par les Américains, on retrouve le même patronyme al-Qurashi, ce qui veut dire de la tribu du prophète. Une façon de dire, c'est le même homme ou la même famille qui reprend les rênes de l'État islamique et que le combat coûte. D'ailleurs, dans son communiqué, l'État islamique explique pleurer le commandeur des croyants morts, mais aussi et surtout, Daesh appelle à venger la mort du chef. Un nouveau chef pour Daesh, il va falloir attendre pour savoir qui est vraiment cet homme, parce que pour le moment, c'est un peu un fantôme qui est là surtout pour occuper le terrain. Daesh, pour l'imposer, va devoir lui mettre une voix, un visage, et voir comment ce nouveau chef va asseoir son autorité. Et là, cela ne passera pas par un simple communiqué.
L'ambassadeur de France en Turquie est convoqué à Ankara. Le pouvoir turc souhaite ainsi protester contre l'adoption hier à l'Assemblée nationale d'une résolution qui critique l'opération militaire de la Turquie contre une zone kurde du nord de la Syrie. La diplomatie turque accuse les autorités françaises de rester aveugles face aux persécutions perpétrées par une organisation terroriste qui prétend représenter les Kurdes. Donald Trump se dit victime, je cite, de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Une réaction du président américain au vote cet après-midi à la Chambre des représentants à Washington en faveur d'une enquête en vue d'une procédure de destitution. Les parlementaires démocrates souhaitent démontrer que Donald Trump a bien fait pression sur le président ukrainien pour obtenir des informations compromettantes sur Joe Biden, actuellement dans la course à l'investiture démocrate. Avec 232 voix pour et 196 contre, la résolution qui permet aux élus américains d'interroger publiquement les témoins de ce dossier ukrainien est donc validée, Loïc Loury.
Oui, et cela vous le disiez après une douzaine d'auditions à huis clos qui ont passablement énervé les républicains. Donald Trump évoquait tout à l'heure la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire. L'un des élus de son camp à la Chambre a lui brandi une pancarte avec un dessin du Kremlin et cette inscription 37 jours de procédure d'impeachment à la mode soviétique. Alors avec ce vote, le parti du président va enfin pouvoir participer à ces auditions. Il s'agissait de les calmer, de leur enlever aussi des munitions. Visiblement, cela n'a pas marché. Écoutez cet élu républicain suivi juste après de la réponse d'une démocrate.
Vous voulez savoir à quel point cette procédure est juste ? Le texte nomme la Commission des affaires financières comme partie prenante de l'enquête. Or, la présidente de cette même commission, ce mois-ci, a affirmé que Donald Trump devait être mis à l'isolement.
Les auditions seront publiques. Ils peuvent interroger les témoins, présenter des preuves. Notre Constitution l'exige, notre démocratie en dépend.
Voilà, mais rien n'y fera. Les républicains conservent leur ligne de conduite, à savoir se concentrer sur la procédure pour, selon les démocrates, ne pas avoir à affronter le fond de l'affaire. Pour l'instant, ils tiennent bon derrière Donald Trump. Ils ont tous voté d'un seul bloc aujourd'hui à la Chambre, contrairement, c'est à souligner, aux démocrates, dont deux élus ont fait défection.
Loïc Loury, notre correspondant aux États-Unis. La COP25 pourrait finalement atterrir à Madrid. La conférence sur le climat devait initialement se tenir dans la capitale chilienne, mais le gouvernement espagnol le propose aujourd'hui. Les 25 000 délégués sont les bienvenus à Madrid. Hier, le président chilien Sebastián Piñera avait annoncé renoncer à accueillir la COP25 à cause de la grave crise politique qui secoue actuellement le pays sur fond de contestation populaire. Les syndicats de cheminots reçus par le gouvernement sur fond de mouvement social qui perdure. Ce matin, deux sites de maintenance de la SNCF en Ile-de-France ont été touchés par de nouveaux débrayages, tandis qu'une grève reconductible est toujours annoncée pour le mois de décembre. Aujourd'hui, des représentants de la CFDT et de l'UNSA se sont entretenus avec le haut commissaire Jean-Paul Delevoye, qui fera des propositions d'ici trois semaines, Raphaël Ebenstein.
Des syndicats plutôt satisfaits à la sortie de leur réunion avec Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebari. Ils ont obtenu un calendrier très resserré de négociations avec la promesse de propositions qui leur seront faites au plus tard le 22 novembre. L'UNSA, comme la CFDT, sont notamment favorables à la clause dite du grand-père. Le fait que la réforme ne s'applique qu'aux nouveaux embauchés, pas aux cheminots actuels. Sur ce point, aucun engagement de leurs interlocuteurs ce matin. Et l'arbitrage devrait d'ailleurs venir directement de l'Élysée, estime le secrétaire général de la CFDT cheminot, Didier Aubert. Reste que le climat social particulièrement tendu au sein de la SNCF n'arrange pas les affaires de ces syndicats dits réformistes, dont une partie de la base semble prête à une grève illimitée à partir du 5 décembre, aux côtés de Sudrail et de la CGT, organisations qui, elles, ont choisi de boycotter le rendez-vous d'aujourd'hui et la concertation proposée par le gouvernement.
Raphaël Ebenstein. On connaît maintenant les détails du contrat de mariage entre Fiat et PSA. Si la fusion a bien lieu, alors les deux groupes automobiles seront actionnaires à 50-50. C'est l'Italien John Elkann qui sera président et le Français Carlos Tavares héritera du poste de directeur général. Le siège de la nouvelle entité sera situé aux Pays-Bas et c'est sur cette localisation en Hollande que les syndicats de PSA grincent des dents, Pierre Benazet.
Oui, même si pour certains, le choix d'installer le siège social de la future entité aurait l'avantage de mettre les deux groupes sur un pied d'égalité aux Pays-Bas, en terrain neutre en quelque sorte, loin de l'Italie, loin de la France, mais surtout effectivement, la fiscalité des Pays-Bas, elle est particulièrement attractive. Le nombre de multinationales qui y sont installées ne trompe pas. Fiat Chrysler y a d'ailleurs déjà son siège. Un choix identique a été fait par Renault-Nissan. Ces sociétés mères sont inscrites aux Pays-Bas comme BVBA, c'est-à-dire société à responsabilité limitée. C'est principalement dans les relations avec les filiales que les règles de taxation batave sont intéressantes pour les multinationales, du fait de la possibilité de déduire les pertes des filiales étrangères au moment qui les arrange. Cette règle permet d'utiliser les pertes d'une année antérieure pour compenser une année très réussie et donc réduire très fortement ses impôts. Cette règle a été réformée en septembre. Les pertes ne peuvent plus être utilisées fiscalement que pendant 3 ans. Les Pays-Bas étaient dans le collimateur de la Commission européenne. Elle a multiplié les enquêtes sur les multinationales établies dans le Royaume, comme par exemple Starbucks ou Nike. Et le gouvernement néerlandais a voulu corriger son image de pôle d'optimisation fiscale qui qui passe mal désormais dans l'opinion publique.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Inter. 6 blessés dont un grave à Marseille ce soir après une nouvelle fusillade. Un homme armé d'un fusil à pompe a ouvert le feu dans un bar du 15e arrondissement. Il a ensuite pris la fuite à bord d'une moto. Les douaniers des Bouches-du-Rhône ont annoncé ce soir une importante saisie. Samedi dernier, ils ont découvert dans la toiture d'un camion frigorifique 75 kilos de cocaïne et plus de 800 000 euros en liquide. Le camion en provenance d'Espagne et à destination de l'Italie était censé transporter uniquement des fruits.
France Inter, Alexis de Meyer.
And the winner is Laurent Binet. Son dernier livre, Civilisation, a obtenu aujourd'hui le grand prix du roman de l'Académie française. Il a obtenu 2 voix de plus que L'île du dernier homme de Bruno de Cessol. Ilana Mourioussef, Laurent Binet n'en est pas à sa première récompense.
C'est un habitué des prix qui l'emporte. Laurent Binet, Goncourt du premier roman pour HHHH, prix interallié pour la 7e fonction du langage. Et maintenant, grand prix du roman de l'Académie française pour Civilisation, avec un Z et au pluriel, Laurent Binet.
C'est ce qu'on appelle une uchronie ou une histoire contrefactuelle. J'imagine que dans les années 1530, les Incas, les Indiens envahissent l'Europe. Les Incas débarquent à Lisbonne et progressivement, l'empereur Atahualpa va prendre la place de Charles Quint.
On aurait pu croire que la très conservatrice Académie n'apprécierait pas ce renversement de perspective, mais il n'en est rien, assure le secrétaire perpétuel Hélène Carrère d'Encausse.
Je crois qu'il a séduit beaucoup de membres de l'Académie par la fantaisie qu'il y a dans son roman. On commence par croire qu'on a compris de quoi il s'agit, puis on saute sur un autre sujet. L'imagination a fonctionné jusqu'au bout.
Il faut dire aussi que les éditions Grasset disposent de puissants relais à l'intérieur de l'Académie, un bon nombre d'académiciens étant publiés par cette maison. Laurent Binet leur rend la politesse.
Dans l'Académie française, je ne vois pas quelque chose de suranné. Je vois un temple de la francophonie avec à l'intérieur des Libanais, des Haïtiens, des Russes, des gens du monde entier qui viennent servir la langue française. Et je suis heureux qu'ils aient récompensé un roman qui déborde les frontières et qui s'étend au monde entier.
À l'Académie française, Gilles Gallinaro, Ilana Mourioussef, France Inter.
Y aura-t-il 2 tennismen français en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy? Gaël Monfils est actuellement sur le court. Plus tôt dans la soirée, Joe Wilfried Tsonga a remporté son 8e après avoir sauvé 2 balles de match. Qualification aussi de Nadal et de Djokovic. Et donc, Fanny Lechevestrier, Gaël Monfils est actuellement dans l'arène contre le Moldave Albot.
Égal, mon fils fait durer le plaisir. Il est revenu un petit peu de nulle part, le Français 13e mondial. Il était complètement dominé dans les échanges par le Moldave. Il avait perdu logiquement le premier set 6-4. Il était mené, il avait été breaké dans le deuxième par Albot encore une fois. Et puis, il est revenu de nulle part. Gaël, mon fils, est là à l'arracher en prenant enfin des risques, en lâchant enfin ses coups. Et avec, il faut bien l'avouer, l'aide un petit peu du filet, il vient de remporter à l'instant même le second set 6-4, voilà, qui nous emmène tout droit et bien vers un troisième et dernier set après 1h20 de jeu. Va-t-on enfin voir le virevoltant Gaël Monfils sur le court? Va-t-on enfin le voir lâcher ses coups et prendre la mesure de Albot, qui n'est que 50e mondial? C'est normalement un adversaire tout à fait à la hauteur de Gaël Monfils. Le problème, eh bien, c'est que Gaël Monfils joue un petit peu avec le frein à main aujourd'hui.
Fanny Lechevestrier en direct de Bercy. Merci Fanny. Il y aura comme l'an passé 2 clubs français en quart de finale de la Ligue des Champions féminines. Après les Lyonnaises hier, ce sont les footballeuses du PSG qui viennent en effet de se qualifier. Après avoir remporté leur 8e de finale, aller 4-0, Kadi Diatou, Diani et ses coéquipières se sont imposés 3-1 ce soir face aux Islandaises de Breidablik. Et puis c'est la Française Stéphanie Frappard qui arbitrera le match féminin Angleterre-Allemagne. Ce sera le 9 novembre prochain. Cette rencontre amicale se jouera à guichet fermé dans le stade londonien de Wembley. 90 000 spectateurs sont attendus pour l'occasion. Le temps de demain vendredi.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
La météo, c'est avec Jean-Pierre Rameau.
Un vrai temps de Toussaint demain avec au programme des nuages, de la pluie et des averses et un vent de secteur sud-ouest soufflant entre 50 et 60 km par heure. Seul le Languedoc-Roussillon, la région PACA et le massif alpin seront épargnés, mais uniquement en matinée. On surveillera une évolution orageuse vers la côte basque en cours d'après-midi. Côté température, les maximales évolueront entre 14 et 23 degrés du nord au sud. Prévoyez 14 à Nancy, 15 à Lyon, 16 dans la capitale comme à Brest et Orléans, 18 à Rennes et Nîmes, 20 à Bordeaux, 22 à Ajaccio et 23 à Biarritz. N'attendez pas d'amélioration samedi. Le temps sera agité sous un ciel souvent menaçant, lâchant de fréquentes averses. Le vent de sud-ouest va souffler jusqu'à 100 km/h près des côtes de la Manche. Comptez 50 à 70 à l'intérieur des terres.